Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la Province Sud et présidente des Républicains Calédoniens. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation dans une actualité politique très dense, avec tout d'abord bien sûr l'élection présidentielle. Emmanuel Macron sera opposé à Marine Le Pen au second tour le 24 avril. Il est arrivé en tête au niveau national, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, avec 40,51% des suffrages. Comment est-ce que vous expliquez ce bon résultat ?
Je crois que c'est tout simplement le résultat de son action pendant le quinquennat précédent en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les électeurs qui ont voté pour François Fillon en 2017, parce que c'était un candidat comme François Fillon qui apportait finalement une forme de garantie de maintien de la Calédonie à la France, se sont reportés naturellement sur la candidature d'Emmanuel Macron suite à l'action déterminée de Sébastien Lecornu notamment au moment du dernier référendum et du maintien de la date malgré les menaces des indépendantistes. Donc je pense que très naturellement, cet électorat dit de droite s'est porté sur la candidature d'Emmanuel Macron d'une part en reconnaissance, d'autre part avec le fait de considérer qu'il a pris des engagements qu'il a tenus et qu'il continuera à tenir.
Alors tous ces soutiens mettent ici en avant effectivement la reconnaissance, la gratitude à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais pourtant, depuis 5 ans, est-ce que la situation de la Nouvelle-Calédonie s'est vraiment améliorée ? Est-ce qu'en fait, l'État ne s'est pas contenté de mettre en œuvre la lettre de l'accord de Nouméa, mais en fait sans préparer de véritables solutions d'avenir ? Est-ce qu'on est plus avancé aujourd'hui qu'il y a 5 ans ?
Ah oui, on est bien plus avancé aujourd'hui qu'il y a 5 ans. D'abord, les Calédoniens ont choisi 3 fois de rester à l'intérieur de la République française. Et on aurait très bien pu avoir, et c'était, vous savez, hein, le représentant local de Marine Le Pen qui avait dit qu'on pouvait décaler un peu le dernier référendum parce que les indépendantistes, s'ils pouvaient finalement accepter une autre date, ce serait mieux. Moi, je considère que ça, c'est les gens qui ont mauvaise conscience, qui sont mal à l'aise vis-à-vis des indépendantistes. Les indépendantistes, ils ont accepté la date en mai 2021. La situation du Covid ne nous obligeait pas à reporter le référendum, et donc il n'y avait aucune bonne raison de reporter ce référendum. C'était le minimum, effectivement, de tenir cette date-là. Et on voit bien la fragilité de certains candidats. Et c'est le cas de Marine Le Pen avec des représentants locaux qui poussaient le ministre des Outre-mer à décaler cette date. Donc oui, ça aurait pu être bien pire. On aurait pu être dans une situation où, aujourd'hui, on n'aurait pas encore tranché cette question-là. Ce qui est quand même... ça nous change quand même la vie. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'Union calédonienne ne redemande pas de nouveaux référendums. On évolue. On arrive dans les discussions avec une situation où on a 3 référendums juridiquement et politiquement valides. C'est quand même extraordinaire en termes d'évolution.
Et si Emmanuel Macron est réélu, ce qui est tout de même une hypothèse possible, voire probable, quels sont ses projets pour la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on sait où il veut l'amener ? Est-ce qu'on sait comment il veut y arriver ?
D'abord, encore une fois, moi, je suis très attachée aux actes. Je parle beaucoup de preuves d'amour plutôt que d'amour. Et je crois qu'il ne l'a pas fait que sur la question du référendum. Il l'a fait aussi sur toutes les crises. Et des crises, malheureusement, moi, j'aimerais bien vous dire qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, on n'en aura plus. Mais on en a eu avec le Covid. On en a aujourd'hui avec l'Ukraine. On a eu des tensions en Nouvelle-Calédonie. On en aura peut-être encore. Et savoir qu'on a un État fort, c'est extrêmement important. Et Emmanuel Macron s'est positionné très clairement sur des questions majeures pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et notamment dans la déclaration qui a été faite en juin 2021, donc avant le référendum, cette déclaration qui a été faite suite à l'accord qui avait été trouvé avec l'Union calédonienne sur la date du référendum, qui dit notamment ouverture du corps électoral. Ça, c'est quand même un élément extrêmement important, qui dit qu'il va mettre tout le monde autour de la table, mais avec des fondamentaux qui sont ceux-là. Et donc, moi, je crois profondément dans la détermination d'Emmanuel Macron à ce que les choses se passent bien. Ça, c'est clair. Il a toujours fait les choses pour qu'on arrive à se parler, mais avec des éléments concrets sur lesquels il y a des engagements forts de sa part.
Vous parlez des indépendantistes, on constate un durcissement de leur part. Ils veulent des bilatérales avec l'État, ils réclament la pleine souveraineté en 2025 ou un nouveau référendum organisé par l'ONU. Est-ce que leur attitude va évoluer après la présidentielle ? Est-ce que c'est une posture pour l'instant ? Ou est-ce que c'est pas un peu inquiétant de voir ce durcissement ?
Je crois qu'au-delà de la question du positionnement pour les présidentielles ou pour les législatives qui vont suivre, les indépendantistes ont toujours, avant l'ouverture de discussion, des postures très dures. Et en particulier Daniel Goa, dont on voit les déclarations lues à chaque comité directeur, qui sont extrêmement violentes. Je pense qu'il ne faut pas que les Calédoniens soient paniqués à chaque nouvelle déclaration des indépendantistes. Ils ont dit, ça a commencé, top 84, pour ceux qui étaient nés et qui étaient en capacité d'entendre ça. Top 84, c'était l'équivalent de Kanaky 84. Et puis après, on a eu Kanaky 2014, avec Louis Cotra-Uregei qui hurlait, qui scandait sur un podium, Kanaky 2014, il y a quoi à négocier? Puis après, on a eu Kanaky 2018, on a eu Kanaky 2020, et maintenant, on a Kanaky 2025. Bon, aujourd'hui, on n'est pas indépendant, les Calédoniens ont décidé de dire trois fois non. Et puis, ils disent qu'ils veulent des bilatérales, mais ils disent en parallèle qu'ils sont d'accord pour discuter avec nous. Et moi, j'ai l'occasion de discuter avec un certain nombre de responsables politiques indépendantistes qui veulent qu'on ait ces discussions-là entre nous. L'accord sur l'usine du Sud, on l'a trouvé entre nous. On l'a trouvé entre responsables politiques calédoniens. Et un certain nombre de responsables politiques qui ont fait partie de ces discussions sur l'usine du Sud considèrent qu'on a intérêt à excusez-moi du terme, mais à débroussailler un peu entre nous. Donc, et c'est ce qu'on fait, même si aujourd'hui, personne ne peut le dire publiquement parce que les indépendantistes ont appelé à ne pas le faire, enfin, à un moment donné. Donc. Mais je crois qu'il faut être lucide sur le fait que les discussions vont être dures. On a besoin d'avoir des gens qui sont costauds, des gens qui sont capables de gérer cette négociation qui va être dure. Mais on est voués à vivre ensemble. Et donc ces solutions, même si on les trouve trois jours avant la date limite à laquelle on pourra la trouver, on trouvera des solutions pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Alors pour revenir à l'élection présidentielle, on a vu ici le comité de soutien à Emmanuel Macron. Il s'est présenté il y a quelques temps. Il va de Calédonie Ensemble au Républicain Calédonien en passant par le MPC, Génération NC. Il y a des personnalités également comme le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Est-ce que vous avez vocation à vous retrouver après la présidentielle dans une maison commune qui serait, on ne sait pas trop, parti unique, confédération de partis, comme le souhaite Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce que c'est envisagé à l'échelon de la Nouvelle-Calédonie?
On l'a dit, pour nous, d'abord, chaque chose en son temps. D'abord, il faut qu'Emmanuel Macron gagne ce deuxième tour. Donc, on est très concentré sur ce deuxième tour de l'élection présidentielle. On est tellement concentré qu'on fait un meeting mardi soir prochain, qui va effectivement de Calédonie Ensemble au maire de Nouméa, en passant par le maire de Bourail, de La Foi, de Païta et tous les partis politiques. On fait ce grand meeting tous ensemble parce qu'on est concentré sur le deuxième tour. Mais il faut aussi dire la vérité aux Calédoniens. La vérité, c'est quoi? C'est que dans les discussions, on sera d'autant plus fort qu'on a des personnes autour de la table, donc des députés en l'occurrence, qui font partie d'une force qui partagent les mêmes idées. Et c'est vrai que ce qu'on veut faire, ce qu'on veut construire pour la suite, c'est dire on sera plus fort si on a deux députés qui sont investis par le président de la République, qui ont le soutien du président de la République. Quand on s'exprimera, on n'aura pas des opposants autour de la table, on n'aura pas des opposants aux représentants de l'État. On aura des gens qui font partie de la même équipe et qui sont de la majorité présidentielle. Donc notre objectif, très clairement, la maison commune, c'est un terme qui a été utilisé par certains, c'est pas forcément celui qui sera conservé, mais en tout cas, on souhaite avoir des candidats investis par la majorité présidentielle, qui ensuite ont le soutien du président de la République si Emmanuel Macron est élu, et qui ensuite seront autour de la table à ce titre-là.
Mais au-delà des législatives, parce que là vous nous parlez des investitures, au-delà des législatives, il n'y a pas d'idée de recomposer le paysage politique calédonien avec en réunissant tous les partis qui auraient soutenu le président de la République actuel?
Vous savez, le paysage politique, il a déjà été reconfiguré. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, parce que les Calédoniens ne doivent rien comprendre de savoir qui est avec qui.
C'est sûr qu'ils doivent se poser des questions. Il y a des majorités à géométrie variable.
Vous savez, c'est exactement ce que j'ai dit, notamment à Thierry Santa, quand on a construit l'Avenir en confiance en 2019. Je lui ai dit, il faut qu'on arrête ces unions de circonstances, parce qu'elles se font et elles se défont au gré des élections. Et ça, il faut arrêter ça. Et donc, je lui ai proposé de faire une structure juridique, un parti unique, de supprimer nos partis politiques multiples et de faire un parti politique global de l'Avenir en confiance ou des loyalistes. Et la réponse a été claire, non, nous, c'est le rassemblement, le rassemblement, le rassemblement. Et au final, à chaque fois, ils ont fait échouer ces possibilités-là, ça a été d'abord l'Avenir en confiance, puis les loyalistes, parce que le repli sur le rassemblement et sa légitimité historique que je reconnais. Mais je crois que... Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé l'élection à la mairie de Païta, où Thierry Santa a utilisé la charte de l'Avenir en confiance pour justifier son non-soutien à Willy Gattuso. Même charte, je le rappelle, hein, la charte de l'avenir en confiance, elle dit quand on n'est pas d'accord sur une décision, on vote. Virginie Rufnacht s'est déclarée candidate à la présidence du Congrès. On a eu un vote, 11 voix contre 7 pour qu'elle retire sa candidature. Elle a refusé de le faire. Et en fait, le Rassemblement, depuis 3 ans, enchaîne les décisions, considérant qu'on ne se séparera jamais et que nous, on n'a qu'à subir tout ce qu'ils font. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait besoin de cette clarification. Donc, vous me parlez de reconfiguration du paysage politique. C'est déjà le cas. On a des gens qui se sont déclarés, je veux dire, les législatives, pardon, j'enchaîne parce que je pense que c'est important que les Calédoniens comprennent, les législatives, on a proposé, Gilles Brial et moi, on a proposé les yeux dans les yeux à Thierry Santa de trouver un accord sur les législatives et de lui donner, d'être notre candidat sur une des deux circonscriptions de son choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire on peut pas être plus généreux que ça. On lui a dit, c'est toi qui choisis. Et nous, on se calera sur le reste. Eh bien, même pas, il a pris la peine de nous répondre parce qu'il considère que c'est le Rassemblement et que le Rassemblement est légitime. Ben, on peut pas vouloir une union tout seul. Vous savez, c'est comme un mariage. Hein. Quand il n'y en a qu'un des deux qui veut que le mariage tienne, en général, ça ne tient pas. Et là, c'est le cas. Et donc, il y a une reconfiguration politique de fait. Moi, je suis aussi également surprise, et je respecte les électeurs de tous les camps, mais je suis surprise que, malgré le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron dans ce deuxième tour, de Jean-François Copé, de Gérard Larcher, enfin bref, de tous les, excusez-moi du terme, de tous les cadors des Républicains, on est aujourd'hui deux représentants des LR qui appellent qui donnent pas de consigne de vote. Enfin, je suis surprise de ça.
Il y en a d'autres chez les Républicains en métropole également qui donnent pas de consigne de vote ou qui se détachent des consignes de vote en faveur d'Emmanuel Macron. Il y en a qui ont annoncé qu'ils voteraient blanc très clairement également. Est-ce qu'il n'est pas normal, justement, surtout en Nouvelle-Calédonie où on connaît la vitalité de la vie politique, de laisser chacun un peu s'exprimer? Est-ce que on voit bien que même le FLNKS a des partis, pourtant la structure tient depuis longtemps, sont des partis autonomes qui chacun ont leur vie propre et leur opposition. Est-ce que vous ne pouviez pas envisager ça côté loyaliste, sans tomber dans un parti unique forcément? Parce qu'on voit bien la difficulté que ça a à tenir et le fait que ça ne tienne pas d'ailleurs.
Bien sûr, je pense qu'effectivement c'est la démocratie, que chacun s'exprime. Je crois que simplement quand on se prévaut d'une union, la moindre des choses c'est au moins d'essayer de se mettre d'accord. Et on aurait très bien pu se mettre d'accord sur un désaccord. Mais là, le Rassemblement décide de vivre sa vie depuis très longtemps maintenant, sans se demander ce qu'on peut en penser. Et puis vous savez, l'histoire de le premier tour, c'est des primaires, le deuxième tour, on se retrouve. Je peux vous en parler, moi, en 2017, hein, au deuxième tour, on se retrouve. Hein. Moi, il y avait Gaëlle Yanot, Bernard Deladrière et moi-même qui étions tous les trois candidats des Républicains hein, en 2017 au premier tour. Je me retrouve au second tour face au candidat du Noyer, qui n'était pas de notre famille politique à l'époque. Et à ce moment-là, il y a eu un deuxième tour qui a regroupé tout le monde contre moi. Donc vous savez, le deuxième tour, le problème d'une campagne électorale, c'est que si on ne se cale pas avant, si on ne fait pas les choses proprement, ben, les campagnes électorales, elles divisent. Et à la fin, ben, on le voit bien, quand on se retrouve à donner une consigne de vote contre celui qu'on a combattu pendant toute une campagne, ben, c'est compliqué. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que c'est facile, que ben, c'est comme si c'était une primaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Déclarer une candidature de manière complètement indépendante comme ça, c'est comme le Congrès, la présidence du Congrès. Virginie Rufnacht, moi j'étais au salon de l'automobile quand elle est passée sur vos ondes, Madame Noire, pour dire « je suis candidate à la présidence du Congrès ». Quand tu es candidat pour la présidence du Congrès et que tu es le seul à vouloir être candidat, bah, tu n'es pas élu et on a fait élire Roch Wamitan. Virginie Rufnacht a fait élire Roch Wamitan.
Alors, c'est ce qui amène cette recomposition qu'on a vue cette semaine au Congrès avec la création d'un groupe loyaliste qui réunit des élus des Républicains calédoniens, du MPC et de Génération NC. Il manque Calédonie Ensemble encore pour faire le groupe des soutiens d'Emmanuel Macron. C'est envisagé ou pour l'instant vous restez à trois groupes non indépendantiste au sein du Congrès?
Écoutez, enfin, encore une fois, chaque chose en son temps. Il y a les élections présidentielles, il y aura la préparation des élections législatives qui reste une échéance nationale, et il y a la reconfiguration locale. Moi, encore une fois, je considère qu'on a... En Calédonie, on pourrait rester à 3, 4, 5 groupes, les indépendantistes le font, à la limite, pourquoi pas. On a un enjeu particulier en Calédonie, c'est cette question des discussions sur la sortie de l'accord Nouméa. Et moi, je crois qu'on doit avoir autour de la table des gens qui sont forts. Et pour être fort, je pense que le fait d'être investi par le président de la République, le fait d'avoir un lien fort, et moi je sais à quel point, chacun sait ma proximité avec Sébastien Lecornu, mais je sais le poids que ça a eu dans le choix qui a été fait de maintenir le référendum en décembre 2021.
Sébastien Lecornu qui ne s'occupera plus du dossier calédonien.
Ça, c'est pas sûr.
Vous pensez qu'il pourra avoir encore des responsabilités?
Je crois que si Emmanuel Macron gagne, Sébastien Lecornu, qui est quand même celui qui aujourd'hui a la meilleure connaissance du dossier calédonien, il connaît tous les acteurs avec leurs défauts et leurs qualités et leurs forces. Et je pense que, enfin, ce que je comprends de ce que me dit le président de la République, c'est que Sébastien Lecornu sera là où il sera, toujours en lien avec la Nouvelle-Calédonie. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne chose parce que nous, à chaque changement de gouvernement, la Calédonie est traitée par des gens qui découvrent, alors avec sans doute plein de bonne volonté, mais le temps de comprendre, parce qu'en plus, on est quand même compliqué, hein, faut quand même comprendre qui est avec qui et ça change régulièrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Sébastien Lecornu, il a tous les codes. Il a compris. Et donc, je pense qu'il sera toujours en lien avec la Nouvelle-Calédonie.
Même s'il ne sera plus ministre des Outre-mer, on peut penser qu'il...
Vous savez, ça a été à un moment donné à Matignon que ça a été traité, à l'Outre-mer. Si Sébastien Lecornu est ailleurs et que le président de la République lui dit qu'il s'occupe du dossier de la Nouvelle-Calédonie, il s'occupera du dossier de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, pour revenir aux affaires politiques ou politiciennes, on a envie de dire locales, est-ce que c'est vraiment des divergences? On ne comprend pas forcément cette recomposition, cette réorganisation. Quand on voit, par exemple, que concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes plus proche du Rassemblement avec lequel vous défendez une prééminence provinciale qu'avec Génération NC, par exemple, qui veut une Calédonie une et indivisible sans les provinces. Donc comment les Calédoniens peuvent comprendre? Est-ce que ce sont des rapprochements de circonstances? Est-ce que c'est des querelles de personnes?
Je crois que, vous savez, la question de la prééminence des provinces, à laquelle je suis très attachée, ça va pas être finalement ce qui va arriver en premier dans les discussions. Ce qui va arriver en premier dans les discussions, c'est quoi? C'est la question du corps électoral, c'est la question de la validité, entre guillemets, du référendum, et puis cette volonté qu'ont les indépendantistes d'en refaire un pas trop tard, ce à quoi je suis totalement opposée, c'est ça qui va arriver. Et on a besoin d'avoir autour de la table des gens forts. Des gens forts. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu 3 ans avec le Rassemblement. Et quand on a négocié la date du référendum, on avait un Thierry Santa qui avait été éjecté du gouvernement, du 16e gouvernement, et qui discutait avec l'UC de bien vouloir, pour qu'il veuille bien le réélire président en considérant que la date du référendum était moins grave. Ben moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je négocie pas comme ça. Et je considère qu'on a besoin d'avoir des gens forts. Et donc, la question de la prééminence des provinces, qui est une question tout à fait capitale, elle viendra à la fin des discussions. Et tant mieux si on est tous d'accord. Mais au début, on a besoin de gens qui ne baissent pas, qui ne baissent pas un genou devant les indépendantistes.
Et alors, pour les législatives, puisque vous êtes très opposé à ce que le Rassemblement présente ses propres candidats, vous dites que vous avez essayé d'obtenir des candidatures uniques, vous n'y êtes pas arrivé. Comment est-ce que vous les voyez maintenant? Est-ce qu'il y aura des candidats? Est-ce qu'en face des candidats du Rassemblement, il y aura un candidat unique du groupe loyaliste? Est-ce qu'il y aura aussi les candidats, les députés sortants? Est-ce que c'est déjà en cours de discussion?
Oui, enfin, j'œuvre pour que la division loyaliste soit la moins forte possible. Le Rassemblement a décidé tout seul, avant les présidentielles, sans en parler à personne, d'être candidat. Dont acte. On n'y peut rien et c'est leur choix. Bon. Maintenant, sur ce qui reste du paysage, ce qui est quand même une grande partie du camp loyaliste au Congrès, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse limiter le plus possible la division. Donc je souhaite qu'effectivement, on puisse avoir des candidats uniques qui porteront la voix de la majorité présidentielle dans la première et dans la deuxième circonscription.
Ah, il y a l'obstacle des députés sortants. Ils seront, vous allez être amenés à soutenir des députés, enfin des candidats calédoniens ensemble éventuellement s'ils veulent se représenter ou s'ils ont l'investiture de la REM puisqu'ils soutiennent Emmanuel Macron aussi.
C'est pas la question des députés sortants, c'est pas un obstacle, c'est un paramètre de l'équation.
Donc, je dis obstacle parce qu'ils sont pas dans le groupe loyaliste que vous avez fait au Congrès.
Certes, mais c'est un paramètre. Je répète, hein, on est dans des élections nationales, on n'est pas sur des élections locales. Les élections de députés, vous savez, les députés, en réalité, en Calédonie, ils ont très peu de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Les compétences étant quand même largement transférées, le député, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir majeur? Celui d'être autour de la table pour les discussions. C'est ça, la réalité. Et donc, oui, je considère qu'on va avoir qui dans les discussions? On va avoir un camp indépendantiste, on va avoir un représentant de l'État ou des représentants de l'État, et on va avoir un camp non indépendantiste. Et ceux qui seront autour de la table, plus ils seront d'une part forts, plus ils seront unis, et plus ils seront proches, entre guillemets, de l'État, et plus ils arriveront à faire avancer leur cause. Donc vraiment, je crois dans la limitation le plus possible de la division non-indépendantiste.
Et la réconciliation avec le Rassemblement, parce que ça a l'air quand même tendu, vous n'y croyez pas ?
Si, vous savez, je crois, peut-être un peu optimiste, mais je crois profondément, et c'est pour ça que je regrette des décisions sans en parler, parce que je crois profondément qu'on n'a pas d'autre choix que de se réunir. La Calédonie ne peut pas se permettre ces divisions-là. Donc j'espère que le Rassemblement arrêtera de se replier sur son propre parti. Je comprends, et j'ai été au Rassemblement, j'en suis partie en 2012, mais j'ai été de mes 18 ans jusqu'en 2012 au Rassemblement. C'est ma famille politique d'origine, etc. Mais on ne construit pas toute sa vie politique sur une légitimité historique, ça suffit, quoi. Et donc j'espère que le Rassemblement arrivera à progresser pour sortir de ça et faire des choses ensemble avec tout le monde.
Alors on a vu l'unité de tous les loyalistes et là du Rassemblement à Calédonie Ensemble en passant par les différents partis lors de l'examen du budget, quand vous avez tous quitté l'hémicycle face au budget qui était défendu, présenté par le gouvernement Mapou. Ça veut dire que sur certains sujets et face aux indépendantistes, vous faites l'union.
Bah oui, alors on a réussi et on en a discuté ensemble. On a réussi à prendre la décision tous ensemble parce que les humiliations successives des indépendantistes dans l'examen du budget étaient devenues insupportables. On a décidé de tous sortir. Et je pense que c'était un acte fort. Et on a vu la réaction des Calédoniens suite à ça. Les Calédoniens nous ont remerciés. Non pas uniquement d'être sortis pour le budget ou d'avoir fait un acte fort, juste d'être ensemble.
Ils en ont marre des divisions.
Et vraiment, ils arrivent plus
à suivre.
Et puis, on fait cet acte-là. Je sais pas quel jour c'était, ça devait être un mardi. On fait cet acte-là, on est tous ensemble, on met sur la photo de gauche à droite tous ceux qui siègent au Congrès au titre du camp non indépendantiste. Et puis le lendemain, on découvre la candidature de Virginie Rufnac et de Thierry Santa aux législatives. Mais enfin, quel message.
Vous l'avez pas découverte, vous la connaissiez quand même.
Ah, j'ai découvert. Je pense qu'on aurait pu encore en parler. La proposition qu'on a faite de partage des circonscriptions à Thierry Santa, elle méritait d'être étudiée. Et la réaction de dire le lendemain de cet acte d'unité, encore une fois, il méritait qu'on pose quelque chose là-dessus. On a été capable de faire ça, ça méritait. Eh ben non, encore une fois. Et je le répète, ça a commencé dès 2019, dès l'instant où il y a ce refus de dire on crée une structure qui fixe et on arrête les unions de circonstances au gré des élections. C'est ça qu'il faut, c'est ça que les Calédoniens attendent. C'est ça que Jacques Lafleur a fait en 77 avec le RPCR. C'est ça qu'il faut arriver à faire en Calédonie. J'espère que ce sera possible le lendemain des législatives.
En attendant les conséquences de ce budget voté par une majorité indépendantiste, notamment pour la province sud, on rappelle que vous êtes présidente de la province sud, c'est un budget qui va vous rendre les choses extrêmement compliquées.
Oui, c'est un budget de punition que les indépendantistes ont voté contre la province sud. Alors c'est étonnant parce que vous savez, en province sud, il y a 30% d'électeurs indépendantistes. Donc quand ils punissent la province sud, ils punissent pas les riches, parce que la province sud, elle donne pas un franc aux riches. La province sud, elle donne quoi? Elle donne des bourses, elle donne des aides au logement, elle donne des aides sociales, elle donne l'aide médicale. Et ça va pas aux riches. Donc en réalité, quand les indépendantistes punissent la province sud, c'est leurs propres gens qu'ils punissent. Et j'ai du mal à comprendre. On est dans une revanche primaire qui est vraiment déplorable. Et la province sud va être obligée de faire avec ça, mais elle va être obligée de continuer à couper dans ce qu'elle peut couper. Je rappelle qu'on est les seuls à avoir supprimé 130 postes de fonctionnaires en 2 ans. C'est énorme, c'est gigantesque. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie ne fait strictement aucun, le gouvernement ne fait strictement aucun effort pour faire des économies. Je l'ai dit, ok, à la limite, on dit il n'y a pas d'argent, mais on n'augmente pas le budget du Sénat coutumier de 115%. Enfin, soit on dit il n'y a pas d'argent et tout le monde se serre la ceinture, pas de problème. Soit on punit ce qu'on a envie de punir. Qui c'est qui a été puni? La province sud et les membres du gouvernement non indépendantiste. Quand je dis les membres du gouvernement, ce n'est pas eux-mêmes. C'est les secteurs qu'il gère. Je prends un exemple, et là, on était complètement en phase avec Thierry Santa. La formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est un secteur qui est coordonné par Thierry Santa. On sucre 40% de formation professionnelle. Mais quand on sucre 40%, c'est pas Thierry Santa qu'on punit. C'est tous les Calédoniens qui veulent essayer de se former, de progresser dans leur vie. C'est dramatique.
Comment vous allez faire à la province? Alors, est-ce que la bonne nouvelle, peut-être, c'est la modération des titres miniers de premier ressourcier? Ça va vous apporter des ressources qui vont vous permettre peut-être de faire face à cette situation un peu difficile?
Oui, effectivement, la question du système qui a été mis en place avec Produits Ressources va rapporter entre 500 millions et 1,8 milliard à peu près. Mais l'idée qu'on a, et je l'ai dit, hein, je soumettrai aux Calédoniens la question de savoir ce qu'ils souhaitent qu'on fasse de cet argent, sous une forme de débat public ou de consultation. Mais à titre personnel, en tout cas, je ne souhaite pas que ça vienne alimenter les trous sans fond des budgets des collectivités. Les budgets des collectivités, on doit les équilibrer. Alors c'est très très compliqué, on devra faire des efforts, mais je pense qu'il faut que le nickel, il faut que l'argent du nickel, je rappelle que ce système qui est mis en place, c'est la première fois, alors on a eu de l'impôt sur les sociétés beaucoup il y a 20 ans, mais c'est la première fois qu'on va récupérer directement de l'argent depuis plus de 15 ans. Du nickel. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à construire un modèle. Et là, déjà, on sait qu'on va récupérer de l'argent. Ça, c'est la grande nouveauté. Hein. Tout le monde parle de taxes, etc. Ça y est, c'est là. Alors, c'est sous forme de loyer, mais on va avoir de l'argent. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait?
Et on en connaît le montant à peu près déjà.
Entre 500 millions et 1,8 milliard, en fonction des cours du nickel. Mais moi, cet argent, je veux qu'il serve à préparer l'après-nickel, à former des hommes, à créer des filières économiques, à sortir du tout nickel. Si on le met dans le trou sans fond des collectivités, on n'en sortira jamais.
Et cette tension dans les institutions, on en sort comment? On a rarement vu comme ça une telle... tous les élus non indépendantistes quitter le Congrès pendant l'examen du budget. Vous pensez que la réconciliation est possible? Il va y avoir un dialogue entre vous ou vous allez comme ça continuer à vous regarder en chien de faïence jusqu'à la fin de la mandature?
Alors bon, d'ailleurs, d'abord, ça prouve quand même qu'on est arrivé au bout de nos institutions actuelles. On a un Congrès qui est majoritairement indépendantiste, alors que les indépendantistes sont minoritaires dans la population.
Mais ça va durer jusqu'en 2024, puisque la mandature se termine en 2024.
L'idée, c'est... Oui, ça va sans doute durer jusqu'en 2024. Alors après, est-ce que ce gouvernement-là va durer jusqu'en 2024? Je le souhaite pas. Maintenant, les institutions en elles-mêmes, effectivement, elles sont mises en place jusqu'à ce qu'on en trouve de nouvelles, donc avant 2024. Mais... On est arrivé au bout du bout. On a un Congrès majoritairement indépendantiste alors qu'ils sont minoritaires. Ça, c'est à cause de quoi? À cause du gel du corps électoral. 40 000 personnes qui ne peuvent pas voter. C'est devenu évidemment caduque pour les prochaines élections, et tant mieux. Et puis le poids de chaque province au Congrès. Aujourd'hui, juste sur la question de... Enfin, un électeur du Sud, en gros, pèse deux fois moins lourd qu'un électeur du Nord et des Îles. Enfin, c'est quand même inadmissible. Donc ça veut dire que concrètement, on a un gouvernement qui est illégitime. Il est illégitime. Il ne représente pas la majorité de la population. Et quand ce gouvernement illégitime promet aux Calédoniens 90 milliards de pression fiscale supplémentaire, moi, je comprends que les Calédoniens pètent les plombs. Hein. Et là, avec les augmentations, ça devrait servir à quoi? Enfin, le gouvernement devrait s'atteler à quoi? Il y a des gens qui savent pas comment ils vont... On a reçu quelqu'un qui a un bébé de 3 semaines qui se pose la question de savoir comment... De pas manger, elle, pour nourrir son bébé. C'est ça qu'on veut pour la Calédonie? C'est à ça que devraient s'atteler les indépendantistes au lieu d'essayer de prendre des revanches contre les loyalistes.
Ça veut dire que le gouvernement pourrait tomber à partir du mois d'août, c'est possible, voire avant? Ça fait partie de vos plans, et là il faudra une unité de tous les non-indépendantistes.
Pour que les Calédoniens comprennent bien, à partir du mois d'août, le gouvernement peut tomber sur la base de la démission d'une liste. Donc c'est ce qui est fait en général, le plus souvent, aux chutes du gouvernement. Pour que le gouvernement tombe avant, il faudrait qu'il y ait une motion de censure votée par une majorité absolue des membres du Congrès. Et comme chacun le sait, les élus loyalistes aujourd'hui sont 25, les élus indépendantistes sont 26, et l'éveil océanien a 3 sièges. C'est donc, en gros, pour résumer, l'éveil océanien qui décidera si le gouvernement tombe ou pas.
Bref, l'actualité politique devrait rester très dense encore dans les prochains mois. Pour conclure, on va en revenir à l'élection présidentielle, c'est le 24 avril, le second tour. Au premier, on a constaté une abstention extrêmement élevée, 66,65%. Franchement, vous pensez que les Calédoniens vont se mobiliser davantage? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inciter à aller voter ?
Je voudrais quand même juste relativiser, même si c'est des chiffres qui sont très importants, le chiffre avec deux éléments importants. Un, les indépendantistes ont appelé au boycott. Donc on a déjà 40, 45, 47% de la population qui vote pas.
Et ce sera la même chose pour le second tour.
La deuxième chose, c'est qu'on a inscrit automatiquement, parce que ça a été dans le cadre de la préparation du référendum, 30 000 personnes en plus entre 2017 et 2022. On est dans une situation dingue où on a 10 000 personnes de moins en Calédonie depuis 5 ans, mais on a 30 000 électeurs de plus. Pourquoi ? Parce qu'on a inscrit automatiquement des gens qui n'ont jamais été votés de leur vie. Et donc ça compte dans le chiffre final de l'abstention, ces gens-là qui n'ont jamais été votés, qui n'étaient pas inscrits en 2017 et qui sont inscrits en 2022. Mais ça reste un chiffre très faible qui sera sans doute également faible au deuxième tour. Mais j'invite quand même les Calédoniens à prendre conscience que le président, et en particulier à ceux qui soit ont voté non à l'indépendance, soit qui n'ont pas pu voter au référendum, les exclus du corps électoral, à se mobiliser. On a un président de la République qui s'est engagé en tant que chef de l'État, pas en tant que simple candidat, en tant que chef de l'État, qui s'est engagé au dégel du corps électoral. Allez-y, quoi. S'il y a un moment où il faut aller voter, je parle aux 40 000 personnes qui sont exclues, c'est maintenant. Allez-y.
Sonia Bakas, présidente de la province sud et présidente des Républicains calédoniens, soutient également d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Merci d'accepter notre invitation. Merci.